Bonsoir le club, Maxime Binet.
Vous êtes dans Bonsoir le club, votre émission de référence sur l'actualité politique et ses coulisses. Soyez les bienvenus. Au sommaire du club ce vendredi, une véritable honte et une humiliation totale pour la Belgique, c'est ce qu'a déclaré Bart De Wever. Le Premier ministre assure avoir fait le tour des dirigeants des instances européennes. Il leur a demandé de ne pas tenir compte d'un courrier envoyé par le gouvernement bruxellois dans lequel le socialiste Rudy Vervoort demande de l'aide pour payer les travaux du rond-point Schuman. La faute notamment, dit-il, à la crise politique bruxelloise, car on le sait, Bruxelles n'a pas de gouvernement de plein exercice depuis un an et ses finances sont dans un état très préoccupant et cela risque de ne pas s'arranger puisque Standard & Poor's pourrait dégrader ce vendredi soir la note de la région bruxelloise. Que risque vraiment Bruxelles? On en discutera en plateau. On reviendra aussi sur cette phrase de Jacqueline Galland qui assure avoir mis fin à la politisation de l'administration. Le MR et les engagés disent faire le ménage dans la fonction publique en désignant de nouveaux hauts fonctionnaires. Mais est-ce vraiment la fin de la politisation de l'administration wallonne notamment? On en discutera en plateau. Enfin, on reviendra sur le malaise du Parlement wallon après la sortie de route d'un député MR, le président de la Commission emploi au Parlement wallon, Nicolas Zanetatos, a estimé qu'un tiers des exclus du chômage travaillera, je cite, en black. Il a voulu empêcher que la petite phrase soit retranscrite au compte-rendu intégral de la Commission. Cela n'a pas plu à l'opposition. Bonsoir à Corentin de Salles, vous êtes le directeur scientifique du centre Jean Gaulle, le centre d'études du MR.
Bonsoir.
Bonsoir François Peurle, vous êtes l'expert à l'IEV, le centre d'études du Parti Socialiste.
Bonsoir.
Enfin bonsoir, Baptiste Budin, vous êtes bonsoir. Coordinateur chez Protagora, spécialiste en communication. Vous avez récemment lancé une pétition pour réclamer une commission délibérative pour réformer Bruxelles avec les citoyens face au blocage politique. Voilà pour les présentations. Maintenant, parlons politique et de ce courrier officiel qui a été envoyé par le commissaire bruxellois à l'Union européenne, Anne Hutchinson, mais aussi par le gouvernement bruxellois qui l'a endossé, à Ursula von der Leyen, à la présidente de la Commission européenne, dans le but de faire contribuer l'Union européenne aux aménagements de cet endroit stratégique du quartier européen, le rond-point Schuman. La faute, écrit-il dans ce courrier, aux imprévus financiers du projet, à la crise politique bruxelloise, selon le gouvernement Rudi Verwoerd. Dans la Libre a titré récemment, le gouvernement Verwoerd quémant des sous auprès de l'Europe pour finir les travaux au rond-point Schuman. Et Bardo Bever a réagi assez vertement en estimant que c'était une véritable honte, une humiliation totale, que la région bruxelloise quémante de l'argent pour aménager une place. Le Premier ministre a dit avoir dû s'excuser. Je vous pose la question, Corentin de Salles, d'emblée, est-ce que vous êtes d'accord avec le Premier ministre? Est-ce que ce qui se passe à Bruxelles, c'est une humiliation totale pour la Belgique?
Oui, absolument, en fait. C'est effectivement tout à fait honteux, même scandaleux et ridicule, quoi. Donc, on dit souvent, il y a cette fameuse phrase qui dit que le socialisme est une fiction qui dure aussi longtemps que dure l'argent des autres. Ici, on pourrait ajouter qu'ici, on sait déjà depuis un petit temps que la région bruxelloise n'a plus d'argent, donc, mais là, ça n'a jamais empêché effectivement de continuer à dépenser l'argent qu'elle n'a pas. Ici, en raison évidemment des négociations et du fait qu'on est en affaires courantes, elle est limitée dans son...
Il y a un surcoût de 3 millions, et donc, elle n'a pas les moyens de débloquer l'argent.
Oui, c'est ça, donc elle ne peut pas en fait ici dépenser l'argent qu'elle n'a pas en fait, parce qu'effectivement, il y a cette contrainte également. Et donc oui, je pense qu'ici, c'est un très mauvais signal parce qu'on est en train de transformer, donc le gouvernement bruxellois actuel, l'Union européenne, enfin la capitale de l'Union européenne, on est en train de la transformer en une sorte de mendiant. Et donc c'est désastreux par rapport à l'image qu'on renvoie et par rapport à la stature internationale que notre ville doit incarner.
François Peurle, donc je cite Bardo Bever, une humiliation totale pour la Belgique, j'ai dû m'excuser, dit-il. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? On rappelle que le rond-point Schuman, c'est un endroit important évidemment pour la capitale de l'Europe. Il est question de verduriser, de faire des pistes cyclables, de rendre le quartier un peu plus attractif qu'il ne l'est actuellement. Qu'est-ce que vous pensez de ces propos de Bardo Bever?
Il dérape complètement au niveau des faits. Il fait du Trump dans le langage. En fait, quand on regarde un peu la situation, la honte intersidérale, rappelons quand même que le gouvernement fédéral a sollicité la région, enfin plutôt la Commission européenne pour la rénovation du parc du cinquantenaire pour des montants beaucoup plus élevés que la fin des travaux du rond-point Schuman. Que le gouvernement fédéral, notamment à cause de l'incurie de la régie des bâtiments qui était gérée par le MR et l'NVA, est incapable de solutionner la question des écoles européennes. Que le ministère de l'Intérieur, géré par le MR, est incapable de solutionner la question des cartes à puce pour les ressortissants européens, donc des dossiers beaucoup plus importants qui vivent beaucoup dans le milieu et dans la bulle européenne. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'effectivement, il y a un ensemble de travaux qui sont financés par l'accord de coopération fédérale région Belliris. Il manque 3 millions. La région bruxelloise a sollicité, étant effectivement en affaire courante, a sollicité Belliris pour une rallonge de 3 millions sur des crédits existants. Belliris n'a même pas été capable de fournir une réponse. Et donc, dans le cadre des relations qui sont plutôt bonnes entre la Commission européenne et la région bruxelloise a exposé le problème en disant, voilà, si on veut avancer rapidement dans la fin de ces travaux, il est possible qu'on puisse solliciter une aide à la Commission européenne. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait de Weaver? Il en fait du Brussels bashing. Je crois que la honte, c'est surtout aller porter un dossier cloche-merlesque à Ursula von der Leyen. On parle de 3 millions d'euros dans un contexte politique
mais international. Mais c'est Rudi Verwoerd qui porte ce dossier.
Oui, tout à fait. Mais je veux dire, c'est de Weaver qui va après s'excuser, etc. On fait une intervention dans le Parlement. Je veux dire, voilà, à un moment donné, ce qui est important dans la politique, c'est de s'en tenir aux faits. On s'en tient aux faits. Le vrai problème pour l'instant dans les relations entre la Commission européenne et l'Institution européenne et la Belgique, c'est du fédéral en une série de très gros dossiers qui dépassent très largement la requalification d'un espace public. Donc voilà, De Wever est dans une stratégie systématique avec la complicité du MR de démolition de l'institution bruxelloise. Ça fait partie de stratégie. On va dire cette bonne guerre, on peut renvoyer à l'expéditeur aussi toutes les incuries que le fédéral, le ministère, que le MR et la NVA ont gérées, ont eues et ont provoquées dans les relations entre la Belgique et l'Union européenne.
Baptiste Budin, donc voilà, on entend que François Peurle et Corentin de Salles ne sont pas d'accord sur l'origine du problème. Le fait est quand même qu'à l'Europe, on voit Bruxelles venir demander de l'argent. parce qu'ils ne parviennent pas à en obtenir, notamment du fédéral. Ça donne quand même une image, quoi qu'il en soit, particulière de notre pays. C'est assez peu courant, ce type
Mais ça montre aussi, et je suis assez d'accord sur le fait que Bart De Wever, de toute façon, a quelque part utilisé cet événement politique relativement mineur comme une manière, effectivement, de faire avancer un argumentaire historique au niveau de la NVA pour dire que Bruxelles ne fonctionne pas, ne fonctionnera jamais bien et que donc ça demande en tout cas de revoir le statut de la capitale en tant que région à part entière. Bon, ça c'est effectivement sur la partie communicationnelle. Mais ensuite, mettre en avant ce conflit mineur où en fait effectivement la région et l'État fédéral n'arrivent pas à se mettre d'accord sur le financement de ce rond-point Schuman et le porter aux institutions européennes, c'est quelque part amener la honte. Parce que si on en fait c'était quelque chose dont personne n'aurait entendu parler si Bart De Wever n'en avait pas fait état d'abord au Parlement et puis n'avait pas dit qu'il avait dû s'excuser auprès de toutes les institutions européennes.
Mais Rudy Verhoeven est aussi celui qui a envoyé le courrier, donc bien sûr.
Oui, mais c'est,
la demande vient de Rudy Verhoeven.
Mais oui, mais en fait il n'a pas rendu ses demandes publiques. Ouais. Il n'a pas dit le gouvernement fédéral ne veut pas nous donner des sous, donc on est obligé de venir chez vous.
Donc c'est un pompier pyromane, Bart De Wever.
Pour moi, il y a un côté où effectivement là, c'est vrai qu'en fait ça montre tout le dysfonctionnement du fédéralisme belge, toute l'incapacité de certains niveaux de pouvoir à s'entendre sur des projets qui, de nouveau, ne sont pas des projets de réaménagement de l'espace public. Mais la honte, elle vient du fait qu'on rend ça public. Et donc, moi, je trouve que si on veut garder une bonne image de la Belgique, c'est des choses qui devraient se régler de manière tout à fait normal entre cabinets, entre responsables politiques autour d'une table.
C'est la presse qui sort l'affaire. Bart De Wever réagit à ce que la presse a révélé dans la ligne.
C'est comment ça marche aussi des fois la presse. Enfin, je veux dire, il y a des formes quand même de réutilisation de certains narratifs et de certains récits pour pousser des agendas argumentaires qui sont des agendas historiques. On n'est pas étonné, personne n'est étonné, je pense, du positionnement de Bart De Wever dans ce dossier-là. Ça fait partie, en plus, dans le contexte de crise politique dans lequel on est à Bruxelles, voilà, ça fait partie d'un récit qu'on entend depuis des mois maintenant.
Est-ce qu'on peut reprocher à la presse de souligner le fait que Bruxelles, en raison de blocage politique, n'est pas en mesure de financer des travaux d'ampleur comme
on ne doit pas, le reprocher. La presse fait son travail, elle met en avant ce qu'elle veut et c'est tout à fait légitime. En revanche, on peut éventuellement s'interroger sur l'ampleur d'une réaction d'un Premier ministre, alors qu'il n'est pas vraiment responsable de ce dossier-là. Il n'est même pas en charge de Beiris, qui est toute compétence.
Écoutez, moi, par Bernard Cazeneuve. Je suis pas d'accord. Je crois pas que la honte, elle vienne du fait d'avoir rendu ça public ou le fait que le fédéralisme fonctionnerait pas. On sait bien, évidemment, que le fédéralisme a un certain nombre de problèmes. Mais si le fait d'aller demander pour un ordre de grandeur pareil, aller solliciter l'Union européenne, alors, je suis tout à fait d'accord qu'il y a une nécessaire solidarité qui existe entre les États membres, etc. Mais là, le fait d'aller chez les chefs d'État demander ça, la honte, elle vient surtout de Rudy Verhoeven. C'est ça le gros problème, en fait. C'est le fait d'avoir été, pour une demande comme ça, aménager une place. Bon, je suis d'accord que c'est pas n'importe quelle place et qu'elle est aussi située près des institutions européennes. Mais ici, je trouve un peu hallucinant d'entendre parler de l'incurie du fédéral, alors que tout le monde sait bien que c'est évidemment la situation de quasi-faillite, et on va en parler d'ailleurs dans quelques minutes, dans laquelle est cette région depuis plus de 20 ans, c'est-à-dire depuis que les libéraux n'y sont plus pour pouvoir apporter un certain nombre de rigueur et de gestion.
Oui, parce que la question, j'entends quand même dans les cabinets, autres que socialistes, je précise, François Perle, que cette décision de Rudy Verhoeven, certains la comtaient, estiment que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire, et que c'était quand même risqué de faire une demande à Ursula von der Leyen, à l'Union Européenne, ça avait quand même peu de chances de rester secret, ce genre de demande.
Enfin, tenons-nous en fait, c'est une demande qui vient du commissariat de liaison entre Bruxelles et les institutions européennes.
Qui est endossée par Rudy Verhoeven.
Qui est endossée par le président, donc voilà, on s'en tient. De nouveau, c'est intéressant de s'en tenir au fait. S'agissant de honte, je répète, demander à un fonctionnaire européen ce qu'il pense de la régie des bâtiments, département dont les deux derniers gestionnaires s'appelaient Mathieu Michel et Yann Yambon, je crois qu'en termes de honte, on oubliera assez vite cet épisode pour en revenir un peu à l'essentiel, c'est-à-dire à des demandes nettement plus importantes formulées par les institutions européennes auxquelles la Belgique peine à répondre, et ça c'est le fédéral. Dernière chose, dans le contexte actuel budgétaire fédéral, et là moi je peux y voir qu'un contre-feu, je veux dire, on allait voir ce qu'on allait voir, l'assainissement des finances publiques, enfin la rigueur budgétaire, la région bruxelloise est en faillite. Pour l'instant, l'homme malade financièrement de la Belgique, c'est le fédéral, je veux dire, la Cour des comptes, la Banque nationale.
L'un des hommes malades, on va dire.
Un des hommes malades, la Cour des comptes, la Banque nationale, et encore maintenant le bureau du plan sont en train de renvoyer la copie budgétaire de l'Arizona dans dans les limbes parce qu'elle n'est juste tout simplement pas réaliste et qu'elle ne va solutionner en rien la crise des finances publiques dans des proportions beaucoup plus importantes que la problématique bien réelle, que je ne veux pas diminuer, des finances publiques bruxelloises. Donc moi je pense qu'il est temps un peu de se désaltérer, il fait chaud, ça tombe bien, de refroidir un peu la situation et que chacun travaille à ses dossiers, qu'on laisse les Bruxellois, même si c'est très compliqué, régler leurs problèmes et que le fédéral, et en particulier Bardo-Weaver, s'occupe un peu des problèmes des finances publiques du fédéral qui sont en train de dérailler complètement dans la trajectoire jusqu'en 2029, avant de se préoccuper du réaménagement de l'espace public pour 3 millions du rond-point Schuman. Je pense qu'il y a des dossiers politiques un peu plus importants sur lesquels on attend le Premier ministre.
Pour François Peur, c'est un contre-feu de Bardo-Weaver, mais on peut quand même considérer, Baptiste Binin, que Rudy Verwoerd, entre guillemets, tend un petit peu le bâton pour se faire battre. Il offre quand même, en tout cas, un bel élément médiatique à Bardo-Weaver pour faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire taper sur Bruxelles francophone.
En fait, ce qui est dommage, c'est qu'effectivement, il n'y ait pas eu une préparation de la communication au niveau du gouvernement bruxellois sur cette question-là, parce que je pense qu'on aurait pu préparer ça, on aurait pu s'attendre à ce qu'il y ait un contre-feu de cette manière-là, et on aurait pu, je pense aussi, tourner l'histoire, comme on dit, en communication politique un peu différemment. Voilà, force est de constater que ça n'a pas été fait, et qu'aujourd'hui, effectivement, il y a cette polémique qui s'engage sur ce dossier-là. C'est un petit peu dommage, mais c'est aussi représentatif de la fin de cette législature qui se prolonge à Bruxelles de manière un peu artificielle.
C'est compliqué. Évidemment, on va marquer une courte pause et on va poursuivre ce débat sur la situation bruxelloise avec la possible dégradation de la note de la région qui doit être annoncée ce soir. En tout cas, si elle est dégradée, avec quelles conséquences pour Bruxelles, on en débattra en plateau.
Bonsoir le club, en collaboration avec LN24. That we had something good in our hands. In a minute it just slipped away. So many things I didn't say before you threw it all away. I pretend I'm okay, but I'm lost and afraid, and nobody really understands. But now I'm dancing to a band with all the demons in my head. Call me when
Bonsoir le club, Maxime Binet.
Vous êtes dans Bonsoir le club. Bruxelles pourrait subir une nouvelle dégradation de sa note sur les marchés financiers. L'agence de notation Standard & Poor's rend son verdict ce soir. Quelle sera la conséquence d'une dégradation de la note ? Corentin Lesage, je vous pose la question. On n'a pas encore les résultats, ils vont tomber peut-être assez tard ce vendredi. À quoi faut-il s'attendre et quelles pourraient être les conséquences pour la région bruxelloise de cette dégradation de la note ?
Moi, je ne sais pas prédire évidemment quelle sera la décision, parce que c'est quand même des calculs très complexes et ça prend en compte toute une série de paramètres, etc. Mais c'est vrai que ce qu'on entend quand même depuis quelques jours, et c'est un constat effectivement qu'on peut partager, c'est que ça ne va pas spécialement émouvoir les gens qui sont responsables de cette situation. Qu'en fait, donc à partir du moment où on est dans une situation à ce point catastrophique, en fait, hein, on était à 13 milliards de dette il y a encore un an, on est passé à 14 milliards. Si la situation reste dans une situation inchangée, et ce qu'on voit dans la dernière version, en tout cas la note de M. Elaouech, c'est que ils essayent de revenir apparemment en 10 ans une trajectoire, mais sans
à l'équilibre budgétaire.
À l'équilibre budgétaire, mais sans qu'il y ait même aucune vraiment mesure d'assainissement, exactement ce qu'ils ont fait en 2019, et on voit que ça n'a pas vraiment fonctionné. Je ne sais pas si eux vont être tellement émus.
Bon, ça ne va pas changer la donne, ça va pas être un game changer.
Il y aura des gens qui vont dire c'est préoccupant, etc. Mais j'ai l'impression qu'on est déjà tellement loin, et c'est dramatique, parce que si c'est dégradé, c'est vraiment dramatique, parce que c'est pas tellement le fait que tout va être bloqué comme ça du jour au lendemain, mais c'est simplement que c'est une charge, un fardeau supplémentaire sur tous les Bruxellois et tous leurs enfants et petits-enfants. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment horrifiant aujourd'hui, qu'en fait.
Donc ça ferait augmenter le coût de la dette, a priori, si la note est dégradée. Donc je précise qu'elle avait déjà été dégradée, cette note, en mars dernier. Elle est passée de A-, elle est passée de très fiable à fiable, pour préciser sur les chiffres. Elle pourrait encore être dégradée. Mais on a entendu Georges-Louis Boucher, président du MR, nous dire que ça pourrait précipiter la mise sous tutelle de Bruxelles, en tout cas. Elle
oui, ça, c'est une autre question. Moi, je pensais de l'impact sur la question
non, mais
des gens qui sont en train de négocier dans le gouvernement alternatif. Là, oui, je pense qu'on avance de plus en plus. Et là, il y a quand même beaucoup de signaux qui ont été envoyés. Il y avait déjà, effectivement, au niveau européen, un certain nombre de contraintes qui avaient été mis en place à partir de l'année passée et de mesures de surveillance. Là, je crois qu'on arrive de plus en plus dans un scénario où on voit que clairement, cette région ne sait plus se gérer elle-même. Et ça va donner quand même beaucoup d'arguments à ceux qui, au fédéral et au côté du nord du pays, vont d'une part faire du Bruxelles bashing, ce que nous, on ne fait jamais en tant que tel par rapport au statut de Bruxelles et le fait que c'est une région à part entière et qu'elle a tout à fait le droit.
Mais ça pourrait précipiter la mise sous tutelle prochaine.
Mais au niveau de la gestion et la manière dont c'est fait, évidemment, je pense que ces arguments sont fondés. Et que peut-être, évidemment, mais ça c'est encore une autre question, c'est la question de savoir avec le blocage dans lequel on est, il y aura nécessairement, à mon avis, d'ici quelques années, une réforme de l'État, parce qu'on ne peut plus rester dans des situations telles qu'elles le sont.
Et la mise sous tutelle, parce que c'est une mise sous tutelle dont je parle, Georges Boucher, qui serait rapide, qui ne serait pas dans...
Oui, là je pense, bon, il y a différents scénarios, c'est difficile évidemment d'un point de vue juridique, on a déjà quand même souvent regardé un petit peu ce qui était possible de faire. Il y a un moyen de pression, qui évidemment, on parlait de Belliris là tout à l'heure, il y a d'autres mécanismes qui peuvent intervenir pour, à un moment donné, non pas affamer Bruxelles, mais leur dire, écoutez, un peu comme quand on a une procédure du FMI, en fait, hein, c'est de dire, ok, on est d'accord de vous aider, parce qu'on ne va pas laisser tous des concitoyens comme ça dans la situation où ils sont, où ils risquent d'être. Mais qu'à un moment donné, ça implique évidemment de faire un deal sur savoir comment cet argent s'est dépensé.
Oui, on vous aide, mais à condition que vous respectiez nos critères.
Oui, c'est ça. C'est déjà alarmant de voir qu'effectivement la Cour des comptes, depuis 2 ou 3 ans, a décidé de ne plus effectivement faire des avis, parce que les chiffres qu'on leur donne, qu'on lui donne, ne sont pas complets et sont tellement mal gérés qu'en fait, elle arrive même plus à faire un boulot correct, en fait.
François Peur, là, on entend encore Antoine de Salle, hein, nous parler de cette mise sous tutelle. On a entendu aussi Bart De Wever, ces dernières semaines, expliquer que, et encore récemment, que la Belgique, le fédéral pouvait mettre sous tutelle Bruxelles, et que si Bruxelles leur demandait de l'argent, il le ferait, il le mettrait sous tutelle, en parlant de fail state, d'état défaillant. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous craignez, vous, cette mise sous tutelle de la capitale ?
À nouveau, c'est une prophétie autoréalisatrice de NV à laquelle le MR participe, c'est-à-dire l'idée que Bruxelles est en faillite. Juste un petit dézoomage, la dette de Berlin, c'est 66 milliards d'euros. Berlin est un peu plus grand que Bruxelles.
Il faut faire les comparaisons, évidemment.
Non, mais comparaison n'est pas raison, mais voilà, c'est 66 milliards d'euros, donc c'est quand même en ordre de grandeur un peu supérieur à la dette bruxelloise. J'entends personne en Allemagne réclamer la mise sous tutelle de Berlin et dire que Berlin est un failed state et une région qui est similaire à la Grèce. Ça, c'est un point. Deux, sur le retour à l'équilibre en 10 ans, j'entends encore un terme de sel, c'est exactement le programme de la trajectoire budgétaire du gouvernement de la région Wallonne et celui de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc, ce qui est bon, forcément, quand les gouvernements de droite le font ailleurs,
c'est pas n'est, pas forcément, en fait,
hein. N'est pas forcément à Bruxelles.
On a quand même une augmentation de la dette qui a été beaucoup plus rapide.
Oui, oui, d'accord, mais j'ai le retour à l'équilibre. Ici, on parle pas seulement de la dette, on comprend aussi deux choses. J'ai le retour à l'équilibre, c'est pas la dette, hein, c'est deux choses différentes. Évidemment, le fait de ne pas être en équilibre creuse la dette, mais on parle ici du retour à l'équilibre
budgétaire. On est quand même sur 1,6 milliard de dette, sur 7 milliards de, moins de 7 milliards de recettes. Hein, donc c'est quand même.
Non, mais je veux pas minimiser le problème, encore une fois. Hein, donc voilà. Mais il y a ne pas minimiser le problème qui est sérieux. Donc c'est pour ça qu'il y a des pistes, y compris dans ce que Corentin Lecelle appelle le gouvernement alternatif, des pistes de retour à l'équilibre. Il y a personne qui dit qu'il faut pas revenir à l'équilibre. Équilibre et qu'il ne faut pas de rigueur budgétaire. Tout est question de savoir quelle rigueur budgétaire on applique.
Et c'est dégradation
entre
de la note
ça
pour
et dire qu'on est quasiment dans une situation à la grecque et que le fédéral va devoir prêter de l'argent, ce qu'il ne fera jamais parce qu'il n'est pas en capacité de le faire. De toute façon, la région bruxelloise n'emprunte pas au fédéral.
Se porter garant sous conditions.
Voilà, c'est au niveau de garantie. Ce type de chantage, moi je trouve, est tout à fait contraire à l'esprit du fédéralisme et tout à fait contre-productif et tout à fait à l'inverse et à rebours. Mais c'est normal puisque De Wever n'a jamais considéré Bruxelles comme une région à part entière, sur l'idée que État fédéral en Belgique et entité fédérée sont placés sur un même plan, la mise sous tutelle.
Est-ce que cette menace de tutelle, pour vous, est-ce que c'est du vent? Parce qu'on entend ça parfois.
C'est du flanc complet, flanc complet au niveau constitutionnel, il n'y a pas de mécanisme de mise
sous tutelle. Donc ça n'arrivera pas.
Même de fait, c'est uniquement sur la garantie de l'État. Et j'attends de voir que par rapport à une région qui remplit des missions aussi importantes que la région bruxelloise, le fédéral commence à faire du chantage sur la garantie budgétaire. C'est vraiment rajouter des problèmes aux problèmes. La formation du gouvernement n'est pas aisée, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est un euphémisme. Dire ce genre de choses, ça ne fait qu'empirer la situation et ça ne joue absolument pas en faveur d'une solution. Ouais. Et pour terminer sur la note, ça fait des mois que j'entends dire « Oulala, ça va être cataclysmique la note, etc. » Et à ce moment-là, on va partir je ne sais où, on verra la dégradation de la note, mais j'entends maintenant que ceux qui, encore quelques semaines, disaient qu'on allait voir que c'était une véritable catastrophe, la mettent un peu en sourdine. Donc voilà, moi je crois qu'il faut revenir de nouveau un peu à la sérénité des débats et essayer d'être un peu constructif dans la recherche d'une solution.
Baptiste Bidin, on a l'impression, je ne sais pas si c'est votre avis, qu'il y a une sorte de guerre de com' entre la gauche et la droite, entre le PS et le MR, sur la situation financière de Bruxelles, sur les conséquences d'une dégradation de la note, sur la question de la faillite, de la mise sous tutelle. Et voilà, on ne sait plus tellement à quel sens jouer, quelque part.
Oui, et en fait, l'argument budgétaire et cette deadline de la dégradation de la note, pour moi, c'était un peu le grand méchant loup qui va finalement pas manger le petit chaperon rouge, quelque part, parce que là, on a l'impression que tout cet argumentaire qui a été construit depuis vraiment plusieurs mois, en disant que ça allait être un moment de rupture, que ça allait même permettre peut-être d'accélérer la mise en place d'un gouvernement... comme les négociations n'avancent pas, comme la deadline maintenant c'est aujourd'hui, on voit que cet argumentaire-là, il s'essouffle complètement. Ça n'enlève rien.
Ça n'a pas un côté pathétique que, même dans la gravité de la situation financière, elle est quand même sérieuse cette situation, personne ne le conteste. Une dégradation de la note, tout le monde a l'air de dire que ça n'aura aucun effet.
Oui, finalement.
La situation est tellement problématique que plus rien n'est grave, finalement.
Mais en fait, le problème, je pense, c'est que de toute façon, tout le monde comprend bien qu'à l'heure actuelle, sans gouvernement, on ne sait rien faire contre cette dégradation de note si elle arrive, et que oui, tout le monde, je pense, a pris conscience, et ça, c'est quand même la partie de l'argumentaire qui a marché, c'est-à-dire que le budget est devenu un élément central du débat bruxellois sur la formation du gouvernement, mais qu'au final, la dégradation budgétaire en tant que telle et la dégradation de la note en elle-même n'a plus l'air de motiver grand monde à faire un gouvernement par ailleurs. Et donc, ça montre bien que cet argumentaire s'est quand même essoufflé dans sa caractéristique de mettre sous pression des acteurs. Oui. Et ça, maintenant, voilà, il va falloir trouver autre chose. Et moi, c'est là que je m'interroge sur qu'est-ce qui pourrait être la pression suivante, en fait. Parce qu'on a parlé...
l'impression, parfois, pour plaisanter, mais que même un tremblement de terre ne suffirait pas.
Mais je ne sais pas, un tsunami, enfin bon, on peut imaginer plein de choses, mais là, vu qu'il n'y a plus cette espèce de deadline, Standard & Poor's, le budget, tout le monde accepte l'idée que ce budget se dégrade, qu'est-ce qui va... qu'est-ce qui peut consister dans la pression suivante. Si effectivement la mise sous tutelle reste hypothétique, je ne vois pas très bien d'où ça peut venir.
Oui, Corentin de Salles, les négociations, on sait que le MR a une initiative en cours qui, il faut être honnête, n'avance pas beaucoup et n'a pas l'air de porter ses fruits. Et à côté de ça, il y a Ahmed Lawesh qui, lui, tente une initiative aussi à gauche avec le PTB et le PS, qui est toujours en cours. Il y a une réunion hier. Est-ce que vous attendez à ce qu'elle fonctionne? Est-ce que vous estimez que pour la région bruxelloise, ça peut être une solution de sortie, cette majorité de gauche sans le MR?
Ça serait un drame, évidemment, si cette coalition se fait. Si, la question de savoir si elle peut se faire, oui, ça reste quelque chose qui est possible, qui est probable. Mais c'est pour ça que, comme vous le disiez, je pense que ici, c'est à force d'hurler au loup et au loup qu'on finit par faire se voir s'émousser, évidemment, la portée de cette menace. Mais en même temps, ça aussi conduit à un certain nombre de personnes à entrer dans une forme de déni, quoi. Enfin, je vois, François Perle, vous dites que voilà, on peut comparer avec avec Berlin, etc. C'est un peu comme quand on disait, et beaucoup ont dit ça pendant longtemps, qu'un État ne fait jamais faillite. Puis bon, on a eu la Grèce, on a eu d'autres cas. Enfin, quand on regarde un peu l'histoire économique, on voit qu'il y a quantité d'États qui ont fait faillite. Alors, les États ne disparaissent pas parce qu'ils ne font pas faillite, mais c'est parfois, pendant 2-3 générations, une situation extrêmement douloureuse. On parle parfois de générations sacrifiées, et il faut tout faire pour le faire. Est-ce que ce serait contraire à l'esprit du fédéralisme de mettre Bruxelles sous tutelle? Ça serait contraire si, évidemment, c'était un acteur rationnel et qui tout le monde peut avoir des difficultés passagères, etc. Et c'est normal qu'il y ait une solidarité. Mais ici, la situation, il ne faut pas être dans le déni, elle est vraiment dramatique. Ici, on parle de 13 ou maintenant 14 milliards de dettes brutes consolidées. Il y a une étude de l'Université de Namur qui montre qu'effectivement, la politique inchangée, et je ne vois pas très bien ce qui est dans le gouvernement, on peut dire alternatif ou vénézuélien, ou je ne sais pas comment on pourra l'appeler, qu'effectivement, à l'horizon, à politique inchangée, qu'à l'horizon, évidemment, 2029, on atteindrait 22,2 milliards d'euros dans une estimation planchée. Et ça, c'est effectivement les économistes du Centre de recherche en économie régionale et politique économique de l'UNAMUR, en fait, qui fait cette estimation. Ouais. Donc, en fait, ici, ce qu'on ne réalise pas toujours maintenant, c'est que, passé un certain stade, une fois que les emprunts deviennent, et que les intérêts deviennent aussi importants, il y a un effet boule de neige qui risque d'être dramatique. Et à ce moment-là, c'est pas simplement de l'arrogance ou même de la déloyauté fédérale, c'est un devoir du gouvernement fédéral de faire tout en sorte, si ce gouvernement calamiteux se met en place, pour faire en sorte qu'il y ait une mise sous tutelle d'une manière ou d'une autre. Même si je suis d'accord que c'est pas inscrit dans les textes, que c'est pas facile à justifier.
C'est pas si évident.
Mais on peut et on doit, et on l'a souvent fait en Belgique, faire preuve d'imagination si on veut trouver une solution.
Ouais, il faut savoir aussi que la dette bruxelloise, évidemment, ça a un coût pour tout un chacun. C'est plusieurs centaines de millions d'euros par an, ça risque d'augmenter et ça représente plus, titre de comparaison, que les investissements dans la mobilité, dans le métro chaque année. Donc, ce métro qui aura peut-être du mal à voir le jour. François Perle, je voulais quand même vous interroger là-dessus, puisque vous êtes membre de l'IEV, du Centre d'études du Parti Socialiste, et vous avez des discussions en cours au PS avec le PTB. Il y avait une réunion hier soir avec la team Fouad Haïdar, avec Voreut, avec Ecolo, avec Groen. Et pour une majorité de gauche, ça en est où? Est-ce que ça avance, ces discussions? Parce que elles sont en cours et ça se fait un petit peu sous les radars. Même s'il y a quelques communications, c'est pas. Ça se fait de manière un peu feutrée, on va dire.
Mais je ne suis pas dans le secret des dieux. Je sais que les discussions avancent bien, qu'il y a une volonté de trouver une solution, ce qui n'est pas forcément le cas de l'autre côté, puisque de l'autre côté, on n'arrête pas de porter des exclusives à l'égard de tel ou tel parti, en particulier le PS, puisque toutes les négociations que le MR sont en train de...
On est tout à fait prêt à négocier avec le PS. En fait, les exclusives sont les partis non démocratiques, c'est
voilà,
tout. Quoi.
Mais donc le MR a décidé de négocier sans le PS, et y compris même en essayant de débaucher l'ancienne parlementaire de Vlaanderen-Belang pour une majorité tout à fait improbable. La question qui se pose de l'autre côté, c'est de savoir effectivement si autour de la table, que ce soit au niveau du PTB ou de la team Fouad Haïdar, il y a une volonté d'avancer.
Est-ce que le PTB aussi, pourrait lâcher son... est-ce qu'il pourrait finalement accepter de faire des compromis et aller gouverner?
On verra.
On peut en douter quand même.
Je
crois l'histoire du parti.
Je crois que c'est une question de... Enfin, voilà, il y a un an qui aurait pensé que le PTB soit associé au PS dans la ville de Mons. Voilà, tout peut arriver. Donc voilà, la question c'est de savoir.
C'était l'ambition du PTB d'aller dans les communes.
Oui, mais
c'était pas le cas de la région bruxelloise.
Tout à fait. Mais voilà, moi, on verra vraiment. Il y a aucune porte qui est fermée. Ce qui est clair, c'est qu'il faut un gouvernement et que ça fait presque un an que le formateur légitime, parce que c'est un formateur légitime, hein, le MR est arrivé premier parti, le formateur légitime David Lester patine, donc c'est pas anormal d'essayer de trouver d'autres formules, surtout quand ce formateur décide de travailler sans le PS. On verra où cette formule nous mènera, elle est pas forcément plus facile que d'autres, ça fait beaucoup de parties autour de la table, et j'invite Corentin de Salle à lire la note, elle est très très costaud, en tout cas sérieuse, ce qui est le sujet de l'endettement bruxellois. Il n'est pas question de laisser filer l'endettement. Il y a un retour à l'équilibre qui est prévu avec des recettes et des dépenses à l'horizon de 10 ans, qui est exactement l'ambition du MR et des engagés au niveau de la région 1 de la Fédération Unie-Bruxelles. Et ce que le MR, les engagés et l'ANVA ne réussiront pas au fédéral, puisque là, on ne parle même pas de retour à l'équilibre, on parle de retour à un déficit de 3%. Donc voilà, je veux dire, le PS, je répète ça puisque vous avez manifestement bien ce sujet. Le PS a déjà montré par le passé des bonnes capacités en termes d'assainissement des finances publiques. Je rappelle que le gouvernement Di Rupo a réalisé en un laps de temps très réduit 21 milliards d'euros d'assainissement des finances publiques. Le PS a participé douloureusement au plan global à l'assainissement des finances publiques pour l'entrée dans la monnaie unique.
On a compris le PS, donc c'est souci
mais non, voilà, je veux dire, le PS, contrairement à l'image qu'on a essayé d'en donner, le PS a toujours été un parti très responsable sur le plan budgétaire et compte l'être aussi au niveau de la région bruxelloise.
Mais c'est un peu facile, c'est chaque fois la stratégie un peu du PS, c'est de tout bloquer, que ça soit pour les négociations ou que ça soit pour la mise en œuvre effectivement des politiques décidées au fédéral. Et puis vous dites après, ah oui, vous voyez que ça marche pas quoi en fait. À partir du moment où on a avec les pieds des plombs et qu'on veut pas signer un truc, c'est facile de dire, écoutez, ça marche pas quoi.
Enfin, PS a pas tout bloqué, le PS a mis une remarque, c'est-à-dire si il y a une majorité possible sans la NVA, on teste la majorité possible sans la NVA. Il y a plein d'observateurs politiques. Moi, on a crié un peu dans le désert pendant des mois. Il y a plein d'observateurs politiques qui maintenant disent effectivement, on ne comprend pas très bien pourquoi, pour des raisons de présidence interne au niveau de l'OpenVLD, il est impossible de tester une majorité sans la NVA, alors que côté flamand, la NVA n'est pas mathématiquement indispensable, alors que côté francophone, le PS manifestement.
On va conclure parce qu'on revient toujours à ce débat avec ou sans la NVA. Ça fait un an qu'on en discute pratiquement et c'est à mon avis pas fini, on va marquer une courte pause et on se retrouve dans quelques instants pour discuter de la punchline du jour, c'est Jacqueline Galland qui l'assure, nous avons mis fin, dit-elle, à la politisation de l'administration. Est-ce que c'est le cas? On en discute en plateau.
Bonsoir le club, en collaboration avec LN24.
She calls at 5 a.m. to tell me how she's tired of all of them. She says, baby, I've been thinking about a trailer by the sea. We could go to Mexico, you, the cat, and me. We'll drink tequila and look for seashells. Now doesn't that sound sweet? Oh, Jesse, you always do this every time I get back on my feet. Jesse, paint your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me. I say Moses, he's just fine. But he used to think about you all the time. We finally took your
pictures down off the wall. Jesse, how do you always seem to know just when to call? She says, get your stuff together, bring moves and drive real fast. And I listen to her promise. I swear to God this time it's gonna last. Your pictures about how it's gonna be. By now I should know better. Your dreams are never free. But tell me all about our little trailer by the sea. Jesse, you can always sell any dream to me. Oh, Jesse, you can always sell any dream to me.
And don't say hello, 'cause I got high again. Radio.
I've heard my girl is in between the legs of another. I've heard she's back in town with a big black guy. What I need right now is drugs and pills and my mother.
Gonna love today.